Bonjour, bonsoir, bonjour, ça fait longtemps. Très content de vous retrouver, les amis. Très content de vous retrouver pour ce stream spécial. Nous allons regarder ensemble l'allocution du président de la République à 20h, Emmanuel Macron, qui va s'exprimer dans le contexte de la guerre en Iran déclenchée par les États-Unis et Israël. Il faut que je me mette d'ailleurs. Est-ce qu'on a une diffusion programmée quelque part? Merci Perceval. Des bisous Perceval. Qu'est-ce que... Élysée, non. Emmanuel Macron, il a sa propre chaîne YouTube. Hop. Vidéo en direct. Ouais, c'est ce soir, c'est ici. C'est bon, je l'ai. C'est bon, je l'ai. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Alors attendez, dans l'intervalle, puisqu'on a fait une pause, dans l'intervalle, je suis allé chercher le courrier. Je suis allé chercher le courrier, j'ai reçu des bouquins. J'ai encore reçu des bouquins, il faut que je vous les présente, les bouquins que j'ai reçus. Un jeune streamer qui s'appelle Edoui Plenel, qui m'a envoyé « La démocratie n'est pas l'élection », son dernier livre, publié aux éditions du Seuil. Il me l'a dédicacé, merci. Voilà, petit bouquin, très court, qui coûte 5,90€, « La démocratie n'est pas l'élection ». Un régime démocratique ne se résume pas à l'élection de nos représentants, des députés de la nation au président de la République. La meilleure preuve en est qu'aujourd'hui, nombre de régimes autoritaires s'attaquent aux libertés et droits fondamentaux en arguant de leur légitimité électorale qui l'emporterait sur tout autre pouvoir ou contre-pouvoir. État de droit, indépendance de la justice, liberté de la presse, etc. Cette primauté de l'élection appauvrit et corrompt l'idéal démocratique. Merci Edoui de m'avoir fait parvenir ton dernier livre. C'est Edoui qui a écrit ça. Voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas à l'acheter. J'ai reçu également un bouquin d'Arnaud Bontemps qui s'appelle « Service public ou barbarie ?»« Service public ou barbarie » aux éditions La Découverte. Il me l'a dédicacé. Coincé entre bureaucratie et austérité, le service public est devenu une langue morte. Pourtant, je suis convaincu qu'il constitue une alternative au défi du 21e siècle. Bonne lecture. Merci Arnaud. Merci beaucoup Arnaud Bontemps qui m'a envoyé ce livre. Je vais vous lire la quatrième de couverture. Merci Arjet Sky. Merci beaucoup. Quelle est cette nouvelle barbarie qui se déchaîne dans le monde ? Partout, les gouvernements autoritaires taillent dans les services publics et sapent la démocratie. En France, leur affaiblissement nourrit la défiance et fracture la société. Prisonnière du mythe de l'âge d'or, l'idée de service public semble épuisée. On aurait tout dit, tout essayé. Et si c'était l'inverse ? Et si le service public constituait une réponse majeure aux crises écologiques, démocratiques et sociales de notre siècle ? Depuis l'intérieur de l'État, Arnaud Bontemps analyse la dérive austéritaire et bureaucratique en cours. Il montre que le service public incarne un véritable projet de société, prendre collectivement en main nos besoins essentiels, pour les soustraire à la logique du marché et en garantir l'accès à chacune et chacun. Croisant lutte collective, sciences sociales et expérience des institutions, ce livre manifeste appelle à un triple renversement, sortir de l'obéissance, répondre aux besoins, rendre le pouvoir aux citoyens. Arnaud Bontemps, Service public ou barbarie aux éditions La Découverte. Arnaud Bontemps, il est haut fonctionnaire, il a travaillé au contrôle du bon usage de l'argent public au département de la Seine-Saint-Denis et à l'assurance maladie. Fondateur du collectif Nos Services Publics, il est aujourd'hui coporte-parole. Eh bien, très cool. Super bouquin aux éditions La Découverte, il coûte 17,50€. N'hésitez pas à l'offrir à vos êtres aimés. Et ensuite, alors je suis très content... Margot Turca, vous l'avez déjà rencontrée sur ma chaîne. Margot Turca, elle était dans l'émission qu'on a faite avec la Fondation pour la Recherche Médicale, une émission qu'on avait consacrée à l'AVC, l'accident vasculaire cérébral. On a fait une émission complète et Margot Turca, elle était sur le plateau et elle était patiente témoin puisqu'elle a été victime d'un AVC relativement jeune, hein, avant l'âge de 40 ans. Et Margot Turca, elle en a sorti une BD qui s'appelle « Mon petit AVC ». Mon petit AVC, elle me l'a envoyé, merci Margot, aux éditions Larousse. Et c'est une BD témoignage dans laquelle elle raconte ce qu'elle a traversé, comment elle l'a traversé. Margot a 33 ans, elle est jeune maman et croque la vie à pleines dents, mais le 17 novembre 2018, l'AVC entre dans sa vie. Ce jour-là, tout s'enchaîne. Les secours, l'arrivée aux urgences, une IRM et le verdict tombe. Accident vasculaire cérébral, un caillot obstrue une artère de son cerveau. Passé le choc de l'annonce et l'acceptation du handicap, Margot prend les crayons pour laisser une trace et partager son vécu. Avec force, sincérité et humour, elle nous raconte son chemin de résilience. Les séquelles, la rééducation et les rencontres aussi bouleversantes qu'amusantes. Elle ne cache pas non plus qu'il faut apprendre à vivre avec le regard des autres et faire face aux interrogations sur l'avenir. Margot Turca livre un témoignage qui nous sensibilise avec honnêteté et légèreté à l'AVC, encore mal connu du grand public, et nous prouve qu'il est loin d'être une fatalité chez les jeunes comme chez les moins jeunes. Très très cool. Merci beaucoup Petit Fou. Merci beaucoup Pitifou pour ton resub. Donc voilà, ça s'appelle Mon petit AVC de Margot Turca aux éditions Larousse. Je vais le lire avec grand plaisir. Je suis très content qu'elle me l'ait envoyé. Et elle en a sorti un deuxième de livre sur le même, sur le même sujet qui s'appelle Ça me prend la tête. Merci Camille 44. Ça me prend la tête. Et c'est sur le même sujet. Nouvelle BD qu'elle a sortie un peu après. Donc voilà, n'hésitez pas à découvrir les deux, c'est chez Larousse. Et n'hésitez pas à regarder l'émission qu'on a faite, elle est sur la chaîne YouTube, elle est sur ma chaîne YouTube de Replay, mais elle est aussi sur la chaîne YouTube de la Fondation pour la Recherche Médicale, une émission qui s'appelle Checkpoint, qui a lieu sur ma chaîne, sur Twitch. On fait ça tous les 2 mois et demi, 3 mois, avec la FRM. Et voilà. Et ben voilà, donc ça c'était les bouquins que j'ai reçus aujourd'hui par la poste, enfin que j'ai reçus aujourd'hui, depuis la dernière fois que j'étais pas allé les chercher. Donc voilà, voilà. Et donc bienvenue à vous, si vous nous rejoignez évidemment, on reprend le stream ce soir en prévision de l'allocution du président de la République, Emmanuel Macron, qui va s'adresser aux Français. À vous du coup, enfin oui, oui, oui du coup c'est ça. Qu'est-ce qu'il va nous annoncer? Parce que, attendez, ce week-end, il y a eu 2 conseils de défense. Le niveau d'alerte de la France a été augmenté dans la région près de l'Iran pour protéger les ressortissants français. J'ai vu que le porte-avions Charles de Gaulle était mobilisé en Méditerranée. Que faut-il s'attendre de cette allocution? C'est une bonne question que tu poses. J'essaye de réfléchir. Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron veut nous annoncer? Parce qu'il a fait un discours hier où il a parlé de la dissuasion avancée nucléaire française. Ça, d'accord. Ça, il en a parlé hier. Il a eu l'occasion hier de s'exprimer longuement sur le fracas du monde et l'instabilité géopolitique et militaire. Est-ce qu'on a des bases françaises bombardées? Alors, de ce que j'ai compris, il y a un missile iranien qui a touché une base sur laquelle il y a des militaires français. Voilà. Ça n'a fait aucune victime. Mais pour l'instant, voilà quoi. C'était à Abu Dhabi, ouais, c'était à Abu Dhabi. C'était un drone, bon bah un drone, un missile, bref, une attaque qui a touché une base militaire. Est-ce que les Émirats Arabes Unis ont sollicité l'assistance de la France? Je crois pas. J'en ai pas entendu parler, en tout cas, c'est possible, mais j'en ai pas entendu parler. Ce qui est sûr, c'est qu'en France, les partis politiques ont été plusieurs à réclamer d'être reçus par Emmanuel Macron. Voilà, les partis politiques ont voulu être entendus par Emmanuel Macron. Il y a la France Insoumise qui a demandé l'organisation d'un débat à l'Assemblée avant toute prise de décision. Tout ça, ce sont des possibilités qui ne font pas partie des obligations du chef de l'État. Chef de l'État, chef des armées... peut prendre des décisions sans consulter les partis politiques. Est-ce qu'il va encore dire nous sommes en guerre? Bah non. Bah non. Merci Timal. Est-ce que, comme aux USA, il faut demander à un congrès avant de s'engager dans un conflit? La réponse est non. En France, le chef de l'État a la possibilité de prendre des décisions très rapidement, pour agir très rapidement. C'est ce qui s'était passé au Mali, notamment. Je m'en souviens. Il a l'obligation de faire une adresse aux Français, une allocution. Ça, c'est prévu par la Constitution. Et l'Assemblée nationale ne se prononce que dans les 15 jours, je crois. Je vais essayer de te retrouver l'article. Ça, c'est la dissolution. Ça, c'est les ordonnances. Les ambassadeurs. Ça, c'est l'article 16. Merci, Kaiser. Merci beaucoup. Je sais plus où c'est. Je sais plus quel est l'article de la Constitution qui prévoit ça. Mais en gros... article 15. Non, l'article 15, c'est le président de la République, c'est le chef des armées. Il préside les conseils et les comités supérieurs de la défense nationale. C'est tout. Est-ce qu'il y a un monde où Macron peut rester président à cause de la guerre? Alors, ça dépend ce que tu appelles la guerre. Pour que des élections présidentielles soient décalées dans le temps, il faut qu'on ait une guerre sur le sol français. Une guerre qui soit de nature à empêcher la tenue de l'élection. Le fait que la France participe à un effort de guerre ailleurs dans le monde n'empêche pas du tout d'organiser des élections en France. L'outre-mer, ça compte? Je sais pas. Je pense pas, non. Dans le contexte, j'en sais rien. Oui, si t'as une collectivité d'outre-mer qui est visée par une guerre, est-ce que ça t'empêche de tenir des élections présidentielles? Je suis pas sûr. Si le président meurt aussi, est-ce que ça décale les élections? Bah, ça les avance. Du coup, oui, on fait des élections anticipées. Ce qui s'était passé avec Pompidou. À la mort de Pompidou. C'est un peu comme en Ukraine où il n'y a pas d'élection parce que c'est impossible à organiser. Oui, alors c'est pas comparable. L'Ukraine subit une invasion de son territoire. Donc c'est un contexte qui est différent, oui, bien sûr. Là, on est en train de parler d'une guerre sur le sol iranien, en tout cas de bombardement de la part des États-Unis et d'Israël. Une guerre qui est en train de faire tache d'huile à tout le Moyen-Orient en touchant les Émirats arabes. Le Liban. Mais donc, en l'état actuel des choses, il n'y a aucune raison qu'on décale les élections présidentielles françaises. Non. Macron gagnerait tellement dans mon estime en faisant une Chirac avec l'Irak. Bah, sauf qu'au moment de l'Irak en 2003... Les États-Unis ont sollicité le soutien du Conseil de sécurité. Là, les Américains, ils ont sollicité que dalle. Ils ont même envoyé Melania Trump présider une séance du Conseil de sécurité. C'est dire l'importance qu'ils y accordent. Donc non, Macron... On sait que Macron n'est pas aligné sur les États-Unis, ça c'est sûr. Macron n'est pas aligné sur Donald Trump, de la même manière que Chirac n'était pas aligné sur Bush. J'avais loupé l'info pour Melania. Ouais, Melania Trump, l'épouse de Donald Trump, a présidé une séance du Conseil de sécurité des Nations Unies. En lieu et place de son mari. Donc voilà, ce qui s'est passé en 2003, c'est que les États-Unis ont sollicité le soutien du Conseil de sécurité et que la France a refusé. Mais là, on n'est pas du tout dans un contexte similaire. L'attaque a déjà eu lieu. Enfin, on est en plein dedans. Donald Trump, d'ailleurs, s'est vanté aujourd'hui, j'ai vu, d'avoir obtenu plein d'objectifs militaires. Il a dit que... Alors, ça ne veut pas dire que c'est vrai, hein, mais il a dit que l'Iran n'avait plus de marine, que l'Iran n'avait plus d'aviation, et que tout avait été détruit. Fin de citation. Qu'est-ce que va annoncer Macron, à ton avis? Franchement, à mon avis, à minima, Macron va dire que la France surveille de près, est mobilisée, que la France condamne l'action unilatérale des États-Unis, la déstabilisation de la région, le désordre du monde, et que dans le tas, la France doit agir en européenne, en lien avec nos partenaires européens, etc. Enfin, tu vois, à mon avis, on va avoir un discours comme ça, mais ne croyez pas. S'il vous plaît, ne croyez pas que ce soir à 20h, Macron va nous annoncer que la France entre en guerre, que vous allez être mobilisés, que vous allez vous battre sur le front en Iran. C'est pas ce qui va se passer. On n'en est pas là du tout. Est-ce que ça justifie une allocution? Ben ça, c'est Macron qui décide, hein. Donc en fait, y a beaucoup de choses qu'on sait déjà. Moi, je ne m'attends pas à ce que ce soir Macron nous annonce un truc nouveau, enfin, de nature à créer un effet phénoménal et tout. Non, enfin, il y a déjà eu des conseils de sécurité qui se sont réunis. La France a d'ores et déjà s'est déjà exprimée par la voix de Jean-Noël Barrot. Macron s'est déjà exprimé hier sur la dissuasion nucléaire. Voilà quoi. Macron serpillière de Trump et de Netanyahou. Faut vraiment pas avoir suivi l'actualité ces 2 dernières années pour dire ça. Ce qui est possible. Il va annoncer du rap de frites à la cantine, j'espère. On est tous hantés par les allocutions pendant le Covid. Oui, les allocutions pendant le Covid, il y avait des annonces. Il y avait des annonces, c'est-à-dire que on était pendu aux lèvres de Macron pour savoir si on allait être confiné, pas confiné, etc. Finalement, c'est Brigitte qui va faire l'allocution ce soir. L'allocution de la Première Dame. Macron va annoncer le début de la conscription militaire. Non. Pareil, non. Ça, c'est un vieux fantasme. Est-ce qu'il y aura une révision du budget? Ah, ça, c'est une bonne question. Allez, est-ce qu'on rouvre un volet de négociation budgétaire? Non, en vrai, un budget rectificatif en cours d'année pour soutenir un éventuel effort militaire. Mais attends, parce que pour soutenir un effort militaire, il faudrait que Macron annonce ce soir un engagement de troupes français important. Suffisamment important pour que ça coûte beaucoup d'argent et que donc on ait besoin de débloquer des crédits. À tout moment, il annonce une dissolution. Ça aussi, ça nous a traumatisés. Pourquoi la France devrait s'engager? Ben ça, c'est une bonne question. Non, mais c'est une bonne question. Je ne vois pas pourquoi la France s'engagerait militairement dans ce conflit. Ça ne veut pas dire que la France n'a rien à faire. Ne serait-ce que protéger ses ressortissants, c'est déjà pas mal. Il y a peut-être en ce moment, je suppose qu'à l'heure où je vous parle, il y a des fonctionnaires du ministère de la Défense qui dorment très très peu et qui travaillent comme des chiens pour essayer d'organiser des rapatriements, de la logistique, garder une surveillance sur les bateaux français. Enfin, voilà, il y a un théâtre de guerre avec une tension régionale très importante dans le détroit d'Ormuz. C'est pas, voilà, c'est pas anodin. D'ailleurs, les bourses, j'ai cru comprendre que les bourses du monde entier étaient en train de paniquer parce que, évidemment, y a de l'instabilité, il y a de la crainte sur l'augmentation du prix des hydrocarbures. Il y a 40 bateaux français qui sont bloqués dans le détroit. Et ben ça, je ne savais pas, tu vois. Merci, Lutadici. Donc oui, 40 bateaux français bloqués, ça veut dire que tu as une cellule de crise. On est en lien avec CMA, CGM, avec les armateurs, etc., en train de faire le point pour voir s'il y a à protéger, s'il y a un risque, lequel, comment, faire du renseignement, se coordonner, etc. Donc tout ça, je veux dire, il y a du travail. Mais ce n'est pas parce qu'il y a du travail qu'il y a une mobilisation massive de centaines, voire de milliers de militaires français qui vont se rendre sur le terrain. La mise en place de vols d'évacuation pour les expats. Ça peut en faire partie. Ça peut en faire partie. Effectivement, si tu as des ressortissants français qui sont bloqués dans un pays, qui est dans une zone de guerre, ou en tout cas qui est proche d'une zone de guerre, etc., oui, tu dois mobiliser des moyens, tu dois essayer de faire en sorte qu'il y ait des avions qui décollent, qu'il y ait des trains, des cars, des bus, pour répondre à la demande soudaine d'une évacuation d'urgence pour tes ressortissants. Donc oui, le ministère des Affaires étrangères est mobilisé, ça c'est sûr. Là, en ce moment, ils sont en train de se creuser la tête. Après, je ne sais pas si les expatriés français souhaitent partir. En plus, ça dépend de quel pays on parle. Est-ce qu'on parle de Dubaï? Est-ce qu'on parle des Émirats? L'Iran? Il y a aussi des Français en Iran. Le Liban? Macron veut faire la guerre pour rester au pouvoir. D'accord. Si tu veux. On ne peut pas laisser les influenceurs à Dubaï vu qu'ils kiffent leur vie là-bas. Influenceurs ou pas. Moi, c'est ce que je disais. On en rigolait hier, hein, mais les influenceurs à Dubaï qui veulent rentrer sont les bienvenus. Enfin, on est très contents de les réaccueillir en France. Et on leur donne rendez-vous avec l'URSSAF et l'administration fiscale. Avec qui ils ont probablement deux, trois trucs à se dire. Peut-être, je ne sais pas. Voilà. Mais derrière la blagounette sur les influenceurs à Dubaï, il ne faudrait pas qu'on soit aveugle au fait qu'il y a aussi des expats qui sont dans une zone de guerre ou dans une situation potentiellement humanitaire grave. Donc c'est très rigolo de faire des blagues sur les influenceurs à Dubaï. Moi, je suis le premier, j'ai très envie. Mais disons que c'est pas le centre du sujet, quoi. Il se passe des choses graves par ailleurs, et il y a probablement des Français, des familles, des expatriés à protéger, quoi. Des touristes aussi, oui, des touristes, oui. Donc voilà, écoutez, je ne sais pas, c'est une question ouverte. Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron va dire ce soir? Est-ce qu'il veut alerter les Français sur la gravité de la situation? Est-ce qu'il veut rassurer les Français qui se font un sang d'encre? Est-ce qu'il va nous annoncer des choses, des mobilisations d'un point de vue géopolitique, militaire, une initiative que pourraient prendre la France et l'Europe dans l'intervalle? Malheureusement, la France et l'Europe pèsent pas grand-chose face aux États-Unis. Donc, annoncer un référendum? Non. On est en pleine vacances parlementaires. Les élections municipales, c'est dans 20 jours. La présidentielle, c'est dans 14 mois. Pas du tout le moment de faire un référendum, hein. Moi, je pense que c'est plié, hein, le référendum. C'était soit l'année dernière, soit jamais, hein. Donc, ouais, non, je sais pas, j'en sais pas plus. J'en sais pas plus à ce stade. J'ai fait comme vous, hein. J'ai lu des articles, je me suis informé sur à peu près ce qui se disait et tout. J'ai vu que ça commençait à bouillir du côté du personnel politique en France qui demande un débat à l'Assemblée nationale. Donc voilà, une allocution du président. Est-ce que ça va mettre tout le monde d'équerre? Je pense pas. De toute façon, la situation ne va pas se calmer juste parce que Macron parle. Merci, Talion. Merci. Donc, ouais, non. Merci, Gobek. Il va faire une sorte de discours de guerre sur les intérêts de la France et il va réaffirmer la coopération militaire européenne. Oui. Oui. Moi, je m'attends à ça, hein. Je m'attends à une allocution où il va nous parler de la mobilisation de l'Europe, du fracas du monde, de l'indépendance de la France, la protection de nos ressortissants et de nos intérêts, le travail diplomatique qui doit continuer. Il ne faut pas laisser parler les bombes. Merci Jules Ripaud. Penses-tu qu'il va parler du service militaire? Non. C'est pas le sujet. Sais pas, je sais pas à quel point il va rentrer dans le détail vis-à-vis de la Chine aussi, qui a intérêt à avoir accès aux ressources pétrolières. Dans la région, le risque d'une crise financière, peut-être? Comment est-ce que l'Élysée décide quand une allocution est nécessaire? Bah, il n'y a rien de plus simple. Emmanuel Macron. Voilà, c'est tout. Tout seul dans son bureau. Je fais une allocution. Voilà. Parfois, il y a la Constitution qui prévoit des allocutions obligatoires sur certains trucs, sur la dissolution, etc. L'article 16. Mais sinon, non, c'est Macron tout seul. La preuve, Hollande, il avait fait une allocution pour annoncer sa non-candidature. Ouais, c'est vrai. François Hollande avait fait une allocution présidentielle pour annoncer qu'il ne se représenterait pas à l'élection présidentielle de 2017. Voilà, c'était le message. On avait dit d'accord. Ça nous paraissait évident. J'étais en stream d'ailleurs à l'époque. Hein. Est-ce qu'il va réaffirmer les distances à prendre avec Trump? Oui, je pense. Oui, je pense. Bah là, typiquement, enfin, je veux dire, une décision unilatérale de Donald Trump d'attaquer l'Iran sans en référer un quart de seconde aux institutions internationales pour en discuter, ne serait-ce qu'en discuter. Enfin, je veux dire, ça a déjà été condamné par Jean-Noël Barrot, hein, ça me paraît assez évident. La France condamne la décision unilatérale de Donald Trump d'aller faire le cow-boy tout seul, quoi. Toi, pour le coup, c'est pas très compliqué. Pourquoi il dissoudrait maintenant? Il a aucune raison de dissoudre. Vraiment. Là, la dissolution, vraiment, hein, la dissolution, faut oublier. Hein, ça n'arrivera pas. Macron n'en a aucune envie. Je crois qu'il a été vacciné la dernière fois, il a compris. Même dommage qu'il ait essayé, mais ça, c'est son problème. Non, on est à un an de la présidentielle. C'est pas le moment de prendre des initiatives politiques en vue de mettre en œuvre des réformes ou je sais pas quoi. Non, c'est fini, là. Comme je le dis parfois, on est déjà dans la fin du quinquennat. Hein, Alors, il reste des trucs à faire, évidemment. Il y a les municipales, il y a les sénatoriales en septembre et tout. Il va se passer des trucs, mais en vrai, on est déjà dans la présidentielle, là. En tout cas, dans les têtes, dans les vôtres. Ouais. Non, la présidentielle a déjà commencé. Hein. Tout le monde réfléchit à l'étape d'après, quoi. Merci, Sénèque. C'est quand le premier tour de la présidentielle? Avril, fin avril, début mai 2027. Macron va annoncer le confinement car l'extension de WoW est sortie. Oui, absolument. C'est dans la Constitution d'ailleurs. C'est dans la Constitution. Hein. Confinement à chaque sortie d'extension de WoW afin de permettre au peuple français de PEX en toute sérénité. En tout cas, ce sera dans ma constitution. Tu peux faire un petit résumé des élections sénatoriales? On aura le temps d'ici au sénatorial que je vous en reparle si vous voulez, mais les sénateurs sont élus tous les 3 ans à l'occasion d'une élection sénatoriale. On ne renouvelle que la moitié du Sénat à chaque fois. C'est un renouvellement par moitié. Les sénateurs sont élus pour 3 ans et surtout les sénateurs, ils sont élus dans les départements par les grands électeurs que sont notamment les maires. Voilà. Le gros du bataillon des électeurs des sénateurs, ce sont les maires. Ce qui veut dire que les élections municipales ont un impact sur les élections sénatoriales. Si, on verra, évidemment vous allez le suivre en direct sur ma chaîne Twitch, les résultats des élections municipales vont nous donner une couleur, une teinte sur les dynamiques politiques et on va retrouver les mêmes teintes dans les élections sénatoriales. Ce qui est normal puisque c'est les maires qui viennent d'être élus qui vont être amenés à voter. Donc si l'extrême droite fait une percée dans les municipales, ils feront une percée dans les sénatoriales en septembre. C'est logique. Après, on verra la mesure de la percée, machin. Mmh. Est-ce que ça va parler du pétrole ou pas? Bah, je pense que ça va parler du pétrole parce que le détroit d'Ormuz, vous voyez où c'est le détroit d'Ormuz? La corne du Yémen, là. Hop. Je vais directement sur Google Maps. Zou. Voilà, le détroit d'Ormuz, c'est ce canal ici, c'est ce passage ici, qui est juste à côté des Émirats Arabes Unis et de l'Iran. Et c'est un détroit qui est important parce que c'est par là que passent beaucoup des bateaux qui vont chercher du pétrole dans la zone, là, Koweït-Irak. Koweït-Irak-Iran. Et puis, de toute façon, globalement, voilà, c'est un endroit où il y a des ports assez stratégiques. Donc, il y a une partie du trafic maritime mondial qui passe par ce petit détroit. Donc, c'est un lieu très stratégique militairement. Et merci, Wawarouron. Si vous perturbez le détroit d'Ormuz, alors vous perturbez le marché mondial des hydrocarbures, notamment du pétrole et du gaz. Et ça se ressent directement sur les places boursières, où il y a des fluctuations des prix très importantes, avec potentiellement des augmentations du prix, si jamais les investisseurs anticipent une raréfaction du pétrole et du gaz venu de cette région. Et ça peut déstabiliser des économies. Ça, je ne vais pas vous faire un dessin. L'augmentation du prix des hydrocarbures déstabilise les économies. Même la Chine, ils ont levé les sourcils. Ouais. La Chine aussi, ils sont dépendants du détroit d'Ormuz. Eux aussi, ils ont des intérêts dans la région, ouais. Donc le pétrole vénézuélien prend de la valeur. Mécaniquement, le pétrole vénézuélien devient plus intéressant. Après, j'ai appris que le pétrole vénézuélien, au moment de l'attaque au Venezuela, à Caracas, j'ai appris que le pétrole vénézuélien, c'était un pétrole de très mauvaise qualité, qui demandait énormément de ressources de raffinage, et que du coup, il était cher, en fait. C'est pas un super pétrole, le pétrole vénézuélien. On peut quand même en faire quelque chose, mais ça demande de l'énergie. Ça demande beaucoup de travail. C'est pour ça que les pétroliers américains ne veulent pas y retourner. Ah ouais? Ça, j'ai pas vu. C'est pas de la mauvaise qualité, c'est juste du pétrole lourd, donc c'est pas la même utilité. Oui, non, effectivement, je suis allé un peu vite en parlant de qualité. C'est juste que son extraction, son transport et son raffinage demandent plus d'énergie et d'argent, en fait, que d'autres pétroles ailleurs sur la planète qui sont de bien meilleure qualité. Il faut que j'arrête d'utiliser le mot qualité, mais vous m'avez compris. Donc voilà, bienvenue à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent, soyez les bienvenus. Mesdames et messieurs, nous allons suivre dans 10 minutes l'allocution du président de la République, Emmanuel Macron. Je dis ça pour ceux qui nous regardent en replay sur YouTube dans 2-3 ans et qui ont oublié qui était le président de la République avant Jordan Bardella. allocution d'Emmanuel Macron dans le cadre de la montée des tensions autour de l'Iran suite à l'attaque américaine et israélienne. Il parle sur quelle chaîne? Il parle sur la chaîne Twitch de Jean Massier, conformément à la Constitution. Après, le flux est également disponible sur des médias pour personnes âgées qu'on appelle la télévision, qui eux aussi peuvent diffuser l'allocution du président de la République. En général, ils le font, parce que c'est important que ce soit accessible à tous les publics. On leur donne l'autorisation. Oui, je leur donne l'autorisation. Je cède les droits. Je cède les droits de diffusion aux chaînes télé. Parce que ça me paraît important que mes grands-parents aient accès, eux aussi, à une allocution du président de la République. Est-ce qu'il y aura la guerre? Alors, il y a déjà la guerre. Il y a déjà la guerre. Hein. Je suis désolé, sur décision de Donald Trump, il y a la guerre. En Iran, les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran avec des bombardements, des tirs de missiles, des attaques de drones pour détruire des infrastructures. Donc oui, ça a déjà commencé là. Est-ce que la France est impliquée? À ce stade, non. La France ne participe pas à cette guerre. La France condamne cette guerre et cette décision unilatérale des Américains. Est-ce que pour autant la France n'a rien à faire, rien à dire? Non. D'où l'allocution de ce soir du président de la République qui va nous en dire plus. Il y a une base française qui a été touchée. Il y a une base militaire sur laquelle il y a des militaires français qui a été touchée par une attaque de drone iranienne. L'attaque n'a fait aucune victime. Je ne suis pas expert militaire, hein, je ne suis pas stratège militaire, je ne suis même pas bon à StarCraft 2, mais je pense que ce n'est pas de nature à engager la France dans un conflit. Quand on parle des intérêts vitaux de la France, c'est pas un entrepôt sur une base militaire. Bon, ouais, non, on n'y est pas. Le six-pool, ouais, voilà, c'est ça, on s'est pris un six-pool. On s'est pris un six-pool sur un dépôt de raffinerie. Au revoir. Il y a eu combien d'allocutions depuis le Covid? C'est une bonne question, ça. Il y a les allocutions du 31 décembre, pour nous dire bonne année. Il y a l'allocution fameuse de 2024 pour dissoudre l'Assemblée, alors que personne ne l'avait demandé. Il y a, je sais pas, il y a quoi d'autre comme allocution du président de la République? Ah, il y a peut-être eu Notre-Dame de Paris, les JO, Cocorico, vive la France. Le 14 juillet, il n'y a pas nécessairement d'allocution. Le 14 juillet, traditionnellement, ça n'a pas toujours été le cas, mais traditionnellement, il y a une interview. Ça n'a pas toujours été respecté, notamment par Emmanuel Macron, mais il y avait une tradition qui voulait que TF1 et France 2 fassent une interview après le défilé militaire du chef de l'État et... La tradition voulait que cette interview concerne surtout les enjeux militaires et internationaux. 14 juillet, défilé militaire, chef des armées. Il y avait une espèce de cohérence éditoriale. Bon, la réalité, c'est que les journalistes, ces petits fanfrelins, ils posaient quand même des petites questions intérieures au président de la République. Ils avaient bien raison. Voilà. Il y en a une après les élections suite à la dissolution. Ah ouais, il avait fait une allocution après les... Ah ouais, t'as peut-être raison. Le 7 octobre 2023, c'est possible. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'Emmanuel Macron, c'est le président de la République qui a le plus fait usage de l'allocution télévisée. Avant, il y en avait des fameuses. Il y en avait des médiocres. Mais Emmanuel Macron, c'est clairement celui, au moment du Covid, qui a inventé une nouvelle méthodologie de communication directe du président de la République avec les Français via l'exercice de l'allocution. J'attire votre attention sur le fait que l'allocution, c'est pratique. Hein ? Il n'y a pas de journaliste. Il n'y a pas de questions qui fâchent. C'est un face-cam. Il n'y a pas de chat. Et en plus, il y a la solennité. C'est-à-dire que le président de la République, en gros, pour le dire autrement, le président de la République, c'est le seul homme politique français qui a le pouvoir de s'inviter à 20h, en direct, sur TF1, sur France 2, et même sur la chaîne Twitch de Jean Massier, pour s'adresser aux Français sans qu'on puisse lui répondre ou le questionner, etc. Parce qu'il pourrait faire autre chose, le président de la République pourrait faire une conférence de presse. Ça fait longtemps qu'il n'en a pas fait, Emmanuel Macron, des conférences de presse. N'est-ce pas, Emmanuel ? Il pourrait faire un JT de 20 heures face à Gilles Boulot, face à Léa Salamé. Il pourrait venir sur le plateau de Baxit. Je sais pas, il pourrait faire quoi d'autre ? Il pourrait... il est allé sur Brut récemment. Il est allé rencontrer Rémi Buzyn, ce qui est très bien. Mais donc voilà, donc tout ça pour dire que l'exercice de l'allocution, moi, ça a tendance à me gonfler à la longue. Disons que je trouve ça facile. Je trouve ça un peu facile. Hein ? Le truc très gaulien, là, de hein, « je m'adresse aux Français », machin, oui, ça va, ça va. Est-ce que c'est en direct ou pré-enregistré ? C'est pré-enregistré. C'est pré-enregistré dans l'après-midi. C'est très jupitérien. Oui, c'est très jupitérien. Mais après, non, oui, c'est très jupitérien, mais c'est très gaulliste. C'est vraiment cette espèce de philosophie de la Constitution de 1958, du président de la République, qui a un rapport direct avec le peuple français via l'élection au suffrage universel. Ça me gonfle. mais bon, bref, c'est pas grave. Voilà, c'est pas le bout du monde. C'est même pas en direct. Est-ce qu'il peut le modifier ? J'ai rarement vu... Alors, techniquement, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que le président de la République peut faire une allocution avec des cuts. Il peut même faire du jump cut, s'il veut, comme sur YouTube à l'ancienne. YouTube 2012, tu vois, tac, 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 tac. Il peut même faire des zooms dans la caméra. Il pourrait nous mettre des petites illustrations rigolotes. Bon, il choisit de pas le faire. C'est dommage, mais il a le droit. Techniquement, il aurait le droit. Alors, je suis méchant parce que quand je dis qu'il fait pas de montage, pendant le Covid, rappelez-vous les allocutions pendant le Covid, il y avait des illustrations sur le côté. En mode YouTube, hein. En mode vulgarisateur, le confinement, l'autorisation qu'il faut signer de la main là pour dire que je m'autorise à sortir de chez moi, les gestes barrières, tout ça, il y avait des petites icônes sur le côté. Ah non, c'était les années... non, c'était moderne. Hein. Mais là, ce soir, je vous annonce, là, ce soir, ça va être veste noire, cravate noire, regard cam, froideur jupitérienne. Le chef des armées s'adresse à la populace. Bon. Il aura plus... Non, il a plus ses lunettes d'aviateur. Non, c'est fini. La méta lunettes d'aviateur, c'est terminé. Non, désolé. Hein, désolé, je sais que vous y teniez. Non, a plus. C'est bon, il a soigné son bobo à l'œil. Donc, il n'y a plus de justification. Merci Rehabfield, merci beaucoup pour ton resub. Merci Commander. Est-ce que tu penses que cette allocution a un rapport avec sa venue sur l'île Longue ? Oui, hier sur l'île Longue à Brest, Emmanuel Macron a fait une allocution, un discours que j'ai streamé d'ailleurs, au cours duquel il a adressé la question de la dissuasion nucléaire française. Évidemment, il ne l'a pas fait n'importe quand. Macron, il n'est pas con, il sait bien que c'est un peu le moment pour annoncer des choses nouvelles en la matière, quoi. Il est 20h, mais ça n'a pas encore commencé chez moi. J'attends comme vous, hein, je suis dans l'expectative. J'attends le début de la diff sur la chaîne YouTube d'Emmanuel Macron. C'est bon, ça a commencé.
Les États-Unis d'Amérique et Israël ont initié contre l'Iran. Elle s'étend à présent dans la région et emporte de graves conséquences pour la paix et la sécurité de tous. La République islamique d'Iran porte la responsabilité première de cette situation. C'est elle qui a développé un programme nucléaire dangereux et des capacités balistiques inédites, qui a armé et financé des groupes terroristes dans les pays voisins, le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen, les milices chiites en Irak, et qui a soutenu le Hamas et a toujours affirmé son objectif de détruire l'État d'Israël. C'est la République islamique d'Iran qui a une nouvelle fois, en janvier dernier, donné l'ordre de tirer sur son propre peuple. Compte tenu de tout cela et des négociations qui ne progressaient plus, les États-Unis d'Amérique et Israël ont décidé de lancer des opérations militaires. Elles ont été conduites en dehors du droit international, ce que nous ne pouvons pas approuver. Il reste que l'histoire ne pleure jamais les bourreaux de leur peuple, et aucun ne sera regretté. Une nouvelle situation est en train d'apparaître. Les frappes devraient continuer dans les prochains jours pour affaiblir l'Iran et détruire ses capacités de riposte. Et en représailles, les frappes de l'Iran dans toute la région devraient alors se poursuivre. Dans ce contexte, avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, nous avons clairement dit qu'un arrêt au plus vite des frappes est souhaitable et qu'une paix durable dans la région ne se fera que par la reprise de négociations diplomatiques. Et je veux ici aussi former le vœu pour le peuple iranien qu'il puisse lui-même librement décider de son destin. Face à cette guerre en train de s'étendre et dont nul ne sait dire aujourd'hui le terme, ma responsabilité est d'agir pour protéger notre pays, garantir la sécurité de nos compatriotes et défendre l'intérêt national. Nous avons renforcé la sécurité de nos bases militaires dans la région. Deux d'entre elles ont subi des frappes limitées, ayant causé des dégâts matériels. Et je veux redire ici mon soutien, ma confiance à l'ensemble de nos forces armées. Nous avons aussi renforcé la sécurité de nos ambassades et de nos intérêts présents dans ces pays. Et je demeure particulièrement vigilant sur ce point. Près de 400 000 de nos compatriotes sont présents dans la région, soit comme résidents, soit de passage. Nous sommes en train d'organiser, en bon ordre, le rapatriement de nos concitoyens qui le souhaitent, en commençant par les plus vulnérables. Deux premiers vols seront à Paris dès ce soir. Je sais l'angoisse, l'impatience qui existe. Mais je veux ici vous dire que les équipes sont pleinement mobilisées dans les pays concernés comme à Paris pour organiser les retours dans les meilleures conditions. Et vous continuerez d'être informés en temps réel. Nous veillons évidemment à la sécurité sur le sol national aussi. À ma demande, le gouvernement a renforcé le dispositif de protection militaire Sentinelle et la vigilance autour des lieux et des personnes les plus exposées. Ensuite, au-delà de ces éléments de sécurité premiers pour nos compatriotes, nos bases, nos emprises, nous devons être aux côtés de nos amis, de nos alliés de la région, pour leur sécurité et pour leur intégrité territoriale. C'est en effet notre responsabilité, elle est strictement défensive, elle vise à protéger et à restaurer le plus vite possible la paix. Il en va de la crédibilité de la France, d'être ce partenaire de confiance qui honore ses engagements, surtout dans ces temps troublés. Nous avons des accords de défense qui nous lient avec le Qatar, le Koweït et les Émirats arabes unis. Ces derniers sont tout particulièrement ciblés et nous leur devons solidarité. Nous sommes aussi liés par des engagements solides avec la Jordanie et l'Irak, et notamment là-bas nos alliés kurdes. Nous avons réagi immédiatement et avons abattu en légitime défense des drones dès les premières heures du conflit pour défendre l'espace aérien de nos alliés qui savent pouvoir compter sur nous. En plus des moyens déjà présents, des rafales, des systèmes de défense antiaérienne et de radars aéroportés ont été déployés ces dernières heures. Et nous continuerons autant que de besoin cet effort. Chypre, membre de l'Union européenne, pays avec lequel nous venons de signer un partenariat stratégique, a été frappé également ces derniers jours. Ceci requiert notre soutien. C'est pourquoi j'ai décidé l'envoi, là aussi, de moyens de défense antiaérienne supplémentaires et d'une frégate française, le Languedoc, qui arrivera au large de Chypre dès ce soir. Nous assurons par ailleurs une coordination étroite avec nos alliés, nos partenaires européens, en premier lieu nos amis grecs, afin que cet effort en Méditerranée orientale soit consolidé par les nations volontaires. Depuis ces dernières heures, la guerre s'étend au Liban, à partir duquel le Hezbollah a commis la faute majeure de frapper Israël et de mettre les Libanais en danger. Israël serait en train de décider une opération terrestre. Ce serait là aussi une escalade dangereuse et une erreur stratégique. Le Hezbollah doit impérativement cesser toute frappe. Et j'appelle Israël à respecter le territoire libanais et son intégrité. Enfin, nous avons des intérêts économiques à préserver, car les prix du pétrole, les prix du gaz, la situation du commerce international sont profondément perturbés par cette guerre. Aujourd'hui, le détroit d'Ormuz est de fait fermé. Et c'est par ce détroit que transitent environ 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfié dans le monde. Le canal de Suez, la mer Rouge sont aussi sous tension et menacées. Nous sommes à l'initiative pour bâtir une coalition afin de réunir les moyens, y compris militaires, pour reprendre et sécuriser le trafic dans ces voies maritimes essentielles à l'économie mondiale. C'est d'ailleurs ce que nous avons su faire il y a plusieurs mois en mer Rouge. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui là-bas. Face à cette situation instable, aux incertitudes des jours à venir, j'ai donné ordre que le porte-avions Charles de Gaulle, ses moyens aériens, son escorte de frégates, fassent route vers la Méditerranée. Mes chers compatriotes, je voulais ce soir vous rendre compte de la situation et de nos actions. Beaucoup de choses sont encore instables, mais la France demeure une puissance qui protège les siens, une puissance attachée à la paix, fiable, prévisible et déterminée. Vive la République, vive la France.
Quoi, c'est tout ? Un petit travelling sur le palais de l'Élysée. Ok, maintenant c'est un travelling, avant c'était une image fixe. C'est tout ce qu'on aura ce soir, hein. Profitez bien. Hein. On se fait chier, il n'y a même pas de musique. C'est bon, c'est fini ? Ouais, c'est fini. C'est vachement rapide. T'as la vache. C'était vachement rapide. Non, mais très bien. Enfin, non pas que je m'attendais à un discours beaucoup plus long, mais enfin, quand même, il aurait pu élaborer un chouïa sur ce qu'il a raconté hier sur la dissuasion nucléaire. Enfin, on est d'accord. On est d'accord qu'on vient d'assister à une vidéo YouTube d'explication, de pédagogie sur ce qui se passe. D'accord. Dont acte. Formidable. Mais enfin, je veux dire, non pas que je sois déçu, mais je suis surpris parce qu'on a connu... Moi, je le connais, mon Macron. Hein, je le connais, mon Macron. Il est plutôt du genre à épiloguer sur la question de l'unité européenne... du droit international qu'il faut respecter et le retour au dialogue. Là, j'ai l'impression qu'il nous a expédié ça en une phrase en disant « les négociations doivent reprendre ». D'accord. Dont acte. Bon, non, ouais, je sais pas. En vrai, je suis surpris. Je m'attendais à un Macron présidentiel, pas Macron youtubeur, tu vois. Beaucoup de respect pour les youtubeurs. Hein. J'en suis un moi-même. Je respecte. Mais comment tu veux que je fasse des abonnés sur ma chaîne Twitch avec ça, moi ? Moi, j'ai rien à analyser, là. Qu'est-ce que vous voulez que je... On n'a rien appris de nouveau, on le savait déjà. Enfin, je dis « on », il fallait lire les journaux et savoir un petit peu ce qui se passait, mais... Non, voilà, je sais pas, il a rien dit. Il a rien dit. Go rewind. Non, on va pas rewind. On va pas rewind ce truc-là. Non, c'est une allocution qui va disparaître dans les limbes des allocutions aux F-tiers, quoi. Désolé, je viens d'arriver, on n'est pas en guerre. Non, on n'est pas en guerre. Non, ah, fou là, carrément pas, non. Non, non, non. Je sais pas. C'est très bien son allocution, c'est tout ce que j'attendais, un état des lieux. Que voulez-vous qu'il fasse d'autre ? La situation n'est franchement pas au blabla. Oui, je vois ce que tu veux dire. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, non, mais pour être très sincère avec toi, l'état des lieux, je ne l'attends pas de la bouche du président de la République. L'état des lieux, je l'attends de la part de Jean-Noël Barrot. Voilà, ça, très bien. Je l'attends de la part des médias qui font leur travail en faisant des sujets au journal de 20h, en te montrant des cartes, etc. Ça c'est... Oui, l'état des lieux, oui. Mais qu'un président de la République prenne la peine de faire une allocution à 20h pour faire un état des lieux, je suis très dubitatif. Il a fait 10 minutes pour la monétisation. Non, ou alors c'est moi qui m'excite tout seul dans mon coin, mais la réalité c'est que c'est la nouvelle méta et que c'est comme ça, et on a un président de la République qui nous fait des états des lieux. Bah pourquoi pas? Non, mais à la limite, pourquoi pas? Vous voyez, je me posais la question à haute voix avant le début de l'émission, avant le début de l'allocution, pardon. Je me demandais si Macron allait être de nature à nous mobiliser, à nous rassurer, je ne savais pas trop. Là, j'ai l'impression qu'il a cherché à rassurer. Alors, il n'a pas utilisé des mots graves en disant « nous ne sommes pas en danger directement », machin et tout. Non, mais il a simplement fait un état des lieux pour dire « bah voilà ce qui se passe, voilà comment ça marche. Voilà où on en est. » Il n'a pas épilogué du tout. Il a très, très peu détaillé ce qu'il disait. En fait, il a fait une allocution inutile parce que la dernière qu'il a faite a été catastrophique pour lui. Donc une sans conséquence, c'est genre cool pour lui. Peut-être que c'est ça. Peut-être qu'Emmanuel Macron a voulu nous réconcilier avec les allocutions présidentielles en nous disant, promis, je dissous pas à chaque fois que je prends la parole devant une caméra. Des fois, je dis aussi des trucs simples et ça va, c'est chill. Voilà, c'est peut-être ça. Peut-être qu'il voulait s'entraîner. Ouais, peut-être qu'il voulait s'entraîner. Enfin, je veux dire, pour ceux qui étaient sur mon stream hier, on a suivi en direct un discours d'Emmanuel Macron en direct de l'île Longue à Brest, où il s'est exprimé en chef des armées pour parler de la dissuasion nucléaire. Bon, bah pour ceux qui étaient sur ma chaîne, vous vous souvenez quand même hier que l'ambiance, elle était autrement plus dramatique. Je veux dire, il a quand même terminé son discours en disant le demi-siècle qui vient sera un temps d'armes nucléaires. Ensuite, il a passé une partie de son discours à décrire, pour ne pas dire dramatiser, une situation internationale instable, ce qui est la vérité. Enfin, là, pour le coup, il faut lui donner raison. Oui, la situation du monde est chaotique, catastrophique. On a l'autre dégénéré qui est président des États-Unis d'Amérique. On a la Russie, on a la Chine. Enfin, bon, voilà, c'est... Dans ce marasme-là, l'Europe et la France ont des choses à dire, ont des choses à faire, etc. Donc là, on a retrouvé le Macron habituel qui épilogue là-dessus. Et hier, c'était pesant. Là, aujourd'hui, c'était tout gentil. Voilà, bon, il se passe des trucs dans le monde. Je voulais vous tenir informé. On est en train de mobiliser les efforts qu'il faut pour protéger. Voilà, passez une bonne soirée. Et tout de suite, vous retrouvez votre film à 20h50 sur TF1. D'accord. Il voulait rassurer par rapport à hier. Ouais. Oui, ça doit être ça. Parce que hier, il n'était pas flippant non plus. Il était pointu, technique, précis. Et surtout, il était en mode nucléaire. Forcément, le nucléaire, tout de suite, ça fait flipper tout le monde, ce qui est bien normal. Bon bah voilà. Macron en just chatting, ouais c'est ça. J'ai sorti le popcorn pour rien. Merci Nat Fischer. Demain il fera 12 degrés à Quimper. Il vise peut-être mal mes publics avec son allocution ce soir à 20h. Non, mais certainement, bien sûr. Je sais pas. Bon, hé, non mais... Encore une fois, j'essaye pas de dire que je suis déçu, non pas que je m'attendais à mieux ou que je voulais plus, etc. Je veux dire, le sujet est déjà pas marrant, ce qui se passe, c'est grave, pour les gens concernés d'abord, pour l'instabilité que ça provoque ensuite. Donc voilà, on n'avait peut-être pas besoin de beaucoup plus de drame que ça. Quelqu'un sait si Macron a touché le CNC talent pour cette vidéo? Ouais. Bah, comme d'habitude, moi j'aimerais bien qu'il y ait une conférence de presse qui soit organisée, quoi. Je trouve que ça fait longtemps qu'Emmanuel Macron n'a pas répondu à une conférence de presse. Avec des journalistes qui posent des questions. Pas juste un discours... que des discours, il a l'occasion d'en faire suffisamment. C'est vrai qu'Emmanuel Macron se tient très en retrait de la scène nationale. Vu que la dernière fois qu'il a essayé, ça s'est mal passé. Est-ce qu'il peut refuser une conférence de presse? C'est pas seulement qu'il peut refuser une conférence de presse, c'est qu'il est seul à décider d'en faire une ou pas. C'est lui qui choisit s'il veut faire une conférence de presse. Parce que ne serait-ce que là, sur tout ce qu'il a dit, ça méritait plein de questions. Et des bonnes questions, des questions légitimes. Sur le rapport entre la France et Israël, sur le rapport entre la France et les États-Unis d'Amérique, sur la protection des ressortissants français, sur la suite des négociations et le rôle que la France va y jouer, sur la mobilisation du porte-avions Charles de Gaulle en Méditerranée, très bien, mais il va faire quoi ? Merci Super Balou. Il a dit que ça allait protéger Chypre. Très bien. Oui, bien sûr. Pourquoi pas? Enfin, j'attendais plus de précision quand même. D'autant qu'encore une fois, j'ai été habitué à en avoir davantage de la part d'Emmanuel Macron. Qui a même été critiqué, je vous rappelle que par le passé, il a même été critiqué pour en dire trop dans ses allocutions. Rentrer trop dans le détail, se permettre de prendre des initiatives qui ne relèvent pas de sa responsabilité, etc. Ça, je l'ai déjà entendu. Quand il a dit « c'est la faute à l'Iran ». Ouais, c'est vrai, il commence son truc en disant... C'est l'Iran est responsable de par son comportement, de par la répression féroce de sa population, de par son programme nucléaire. Oui, mais en même temps, l'Iran et les États-Unis étaient en pleine négociation, en pleine discussion. Donc, à un moment, quand tu es la France et que tu es attaché à l'état de droit, et surtout au droit international, c'est quand même ce qu'a fait Donald Trump est scandaleux. Mettre fin de cette manière-là à une négociation, genre on est en train de discuter, je t'envahis. Enfin, je t'envahis pas, mais je te bombarde. Ouais. Hello, un petit résumé du discours. Bah, il n'y a rien, en fait. Il n'y a rien. Emmanuel Macron a fait un état sur la situation. Voilà, il a fait un état des lieux pour nous dire ce qu'il en était sur le terrain. Merci, Pocaso One. En gros, vous lisez n'importe quel article du journal Le Monde, vous avez un récapitulatif de la situation. Ce n'est pas la peine d'écouter Macron. Ce soir, il n'a rien dit de plus que ce qu'on savait déjà. Il a juste blame l'Iran. En disant que l'Iran portait la responsabilité de l'attaque américaine. Penses-tu que le conflit au Moyen-Orient va avoir une incidence sur la guerre en Ukraine? Dans ce sens-là, je ne sais pas. Mais j'ai lu des analyses qui disaient que la guerre en Ukraine a eu un impact sur l'Iran. La raison à ça, c'est que la Russie est affaiblie en Ukraine, que la Russie n'a pas de moyens militaires à mettre à disposition de ses alliés, notamment l'Iran, et que donc les États-Unis se sont sentis autorisés à attaquer parce qu'ils savaient que de toute façon la Russie ne ferait rien. Voilà, j'ai lu ça. Il a quand même parlé du Charles de Gaulle. Officiellement, il n'allait pas en Méditerranée. Si, on l'a appris cet après-midi que le Charles de Gaulle était mobilisé pour aller en Méditerranée. Donc oui, d'accord, ok. Il a annoncé que le Charles de Gaulle allait en Méditerranée, près de Chypre. Je vous rappelle que Chypre, c'est pas très éloigné du Liban et d'Israël. Voilà. La Chine risque pas d'aider l'Iran. Je sais pas. La Chine, de ce que j'ai compris, encore une fois, je suis pas un expert en géopolitique, mais de ce que j'ai compris, la Chine intervient assez peu en dehors de son périmètre d'influence. La Chine, ils sont pas du genre à envoyer des troupes, à projeter des troupes à l'autre bout du monde. Ça, c'est plutôt les Américains qui font ça. Les Occidentaux, en général. Ils sont pas isolationnistes pour autant, les Chinois, mais... Merci, Sodamacraft. La Chine n'est pas contente du tout, mais n'interviendra pas directement. Ouais, c'est ce que j'ai compris aussi. Dire que le Charles de Gaulle va en Méditerranée, c'est pas de la divulgation de renseignements militaires et donc de la haute trahison. Toi, tu veux envoyer Macron en prison, toi. Il est chef des armées, Macron. Il a le droit d'annoncer où va le Charles de Gaulle. De toutes les manières, un porte-avions, c'est pas discret. Bien, s'il y a bien un truc qui est public, c'est la position du Charles de Gaulle. c'est public de chez public. Les sous-marins, par contre, c'est secret. Ça, oui. Mais ça, c'est un peu le principe d'un sous-marin. Tu vois. Mais les bateaux... Même sous une couverture. Le Charles de Gaulle n'est pas un sous-marin. Le Charles de Gaulle pourrait devenir un sous-marin, mais une seule fois. Il ne pourrait pas remonter après. Comme dit le dicton, il y a plus d'avions sous l'eau que de sous-marins dans l'air. C'est des blagues de nerd. C'est des blagues de nerd de militaires un peu chelou qu'on peut lire sur Internet quand on traîne sur des forums bizarres. Il semble que seul l'amiral sait où sont les sous-marins. Oui, ça c'est vrai. Les sous-marins nucléaires, leur position est secrète. C'est toute l'utilité d'un sous-marin, c'est qu'on ne sait pas où ils sont. Et il faut qu'il y ait le moins de monde possible qui sache où sont les sous-marins. D'ailleurs, j'ai un membre de ma famille éloigné qui est médecin militaire à bord d'un sous-marin nucléaire. Donc c'est le médecin du bord. Et je lui ai demandé la dernière fois que je lui ai vu, je lui ai dit, mais toi, t'es le toubib, tu sais où est le sous-marin quand t'es dedans? Et il m'a répondu non. J'ai pas besoin de le savoir. Je sais pas où on est. Ça me regarde pas. Et en fait, il m'a dit que même les sous-mariniers qui s'occupent de la cartographie, même eux, ils savent pas précisément où ils sont. Eux non plus n'ont pas tout à fait besoin de le savoir. Il y a grosso modo que le commandant qui sait précisément où se trouve le sous-marin. Il n'y a que lui qui a l'info. Les autres n'ont pas besoin de le savoir. Ça ne vous regarde pas. Ils sont sous l'eau. Ouais, ils sont sous l'eau. C'est tout ce qu'ils savent. On est sous l'eau. En même temps, ils pourraient ouvrir une fenêtre pour regarder quand même. Ils savent à peu près. Oui, ils savent à peu près. C'est-à-dire, ils savent qu'ils sont dans l'Atlantique. C'est à peu près tout ce qu'ils savent. Ils savent qu'ils sont en Méditerranée. Ça, c'est un peu difficile à cacher. Voilà, ils savent ce genre de choses. Mais en fait, précisément où se trouve le sous-marin. Voilà. Et pareil à terre, donc, dans l'amirauté, dans les amiraux, etc., les gens qui dirigent la marine, il n'y a que très, très, très peu de personnes qui savent où sont les sous-marins qui sont dans l'eau. Il n'y a pas Hawaï sous la mer. Il n'y a pas Hawaï sous la mer. Ils ont des accidents avec des baleines. Tu oublies le staff de Thinkerview dans la liste des gens au courant. Évidemment. Bien entendu. Merci Mogamov. Non mais voilà, écoutez les amis, voilà, on est quoi ? On est 20 minutes après la fin de la locution du président de la République, on est déjà en train de faire des blagues. Je crois que ça résume assez bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? D'habitude, moi j'en ai pour des jours d'analyse, de discussion, de machin, de retour sur ce qu'il a dit et tout. Là je suis à sec, hein. Je suis très heureux d'être streamer à votre service, y compris dans les moments, vous savez, c'est pas toujours des moments glorieux, hein. Il y a aussi des moments où on se fait chier. Bon, bah voilà, là aujourd'hui, on est dans un moment où on se fait un peu chier, mais pensez à follow la chaîne, évidemment. Il y a des moments où il se passe des trucs. Hein. Vous inquiétez pas, ça va arriver, là. Les municipales, la présidentielle, ça arrive. Ça arrive fort, très très fort. C'est bien les blagues aussi, parfois. Oui, c'est très bien les blagues aussi. Mais je trouve que ça en dit long sur... je sais pas. Sur cette allocution de Macron que j'ai déjà oublié d'ailleurs, hein, tellement il n'y avait pas grand-chose dedans, quoi. On ne sait pas ce qui se passe, mais dans le doute, c'est la faute à LFI. Oui, c'est ça. Oui, ça doit être la faute à LFI, d'une manière ou d'une autre. Mais il ne l'a même pas dit. Il ne l'a même pas dit. Rappelle-nous les dates des municipales. Les 15 et 22 mars. 15 et 22 mars, vous allez voter, je vous rappelle, pour les élections municipales. Enfin, vous allez voter si vous voulez. Mais voilà. Tu ne penses pas que la France n'a aujourd'hui quasiment plus d'influence face aux États-Unis et à Israël, qui agissent seuls ou ensemble, bombardent des pays en invoquant différentes justifications et semblent se soucier assez peu du droit international et du droit de la guerre ? Mais en fait, ça n'a pas changé. Pardon pour le reality check, mais la France ne pèse pas lourd face aux États-Unis d'Amérique. Ça fait un bout de temps maintenant qu'on le sait, qu'on le voit, qu'on le constate, que la France, bon, l'Europe, parfois, ça peut peser. Mais nous sommes une puissance moyenne, de portée globale. Mais je veux dire, en 2003, les États-Unis se sont assis sur le droit international pour envahir l'Irak. Hein. Que le fait que le grand Dominique de Villepin se soit opposé à cette aventure américaine n'a pas empêché les Américains de la faire quand même, cette aventure. Et pour Israël, c'est pareil. Israël, notamment le gouvernement d'extrême droite au pouvoir en Israël, fait ce qu'il veut, on a rien à foutre de la parole de la France. La France reconnaît l'État de Palestine, Israël s'en fout. Bon. Donc le droit international, c'est que pour les faibles. Bah, Disons que c'était toute le... Enfin, après, moi, évidemment, je suis très attaché au droit international. C'est facile, je suis français et européen. Donc, évidemment, j'ai plutôt un tropisme favorable au droit international avec un rapport de réel politique au droit international, en reconnaissant le fait qu'il existe des puissances dans le monde. Il existe une asymétrie des forces dans le monde. C'est faux de dire que tous les pays sont à égalité, qu'on se donne la main et que tous ensemble, on s'assoit autour du feu et on fait le conseil du village du monde. Non, en fait, c'est pas vrai. Il y a des rapports de force, il y a des puissances, il y a des intérêts, il y a des conflits. Et que pour autant, le droit international, ça veut pas dire que le droit international n'a pas vocation à exister dans ce monde-là, dans ce rapport de force. Merci Maxime. Je pense justement que le droit international, ça sert à organiser le dialogue et au moins donner sa chance au dialogue. L'ONU sert à quoi? L'ONU sert à organiser le dialogue. Donner un cadre aux relations diplomatiques, à la construction du droit international. Mais l'ONU peut pas faire grand-chose si des puissances, notamment la première du monde, décident de s'asseoir dessus. Est-ce que tu penses que Trump pourrait entrer en guerre avec la France si cette dernière décide de s'opposer à elle? En fait, on en avait déjà parlé au moment du Groenland. Pour ceux qui s'en souviennent, quand il y avait des tensions sur le Groenland, où Donald Trump envisageait à haute voix, alors soit c'était lui, soit c'était J.D. Vance, d'envoyer des troupes américaine sur le sol groenlandais, prendre le Groenland par la force. Et du coup, ça avait soulevé une question importante, c'est qu'est-ce qui se passe si les États-Unis attaquent l'Europe? Parce que le Groenland est un territoire européen. Et c'est pas une question facile, parce que les États-Unis et l'Europe sont amis et alliés depuis leur naissance. Je veux dire, les États-Unis ont été créés en partie par Lafayette. Alors, dans l'opposition à l'Empire britannique, certes, mais on est alliés. La Première Guerre mondiale, les États-Unis sont venus soutenir les Alliés. La Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis sont venus libérer l'Europe. Donc, en fait, imaginez une situation dans laquelle les États-Unis et l'Europe rentreraient en conflit armé, ça dépasse l'entendement. Pour le dire autrement, avant que les États-Unis et l'Europe se mettent sur la tronche militairement, il y aura plein d'autres étapes. On n'en est pas là du tout. On n'en est pas là du tout. Déjà les sanctions commerciales. Oui, déjà les sanctions commerciales, bien sûr. Déjà les sanctions commerciales. Tu me diras, ça a déjà commencé. Je pensais à ça, justement. Je me disais, attends, les sanctions, on s'en est pris dans la gueule. J'avais oublié. Mais en fait, on s'est pris 15% de tarifs douaniers, quand même, dans la tronche. C'est pas très sport, ça. Entre amis, en général, on fait pas trop ça. Donc, je ne minimise pas la colère qu'a Donald Trump vis-à-vis de l'Europe. Trump déteste viscéralement l'Union européenne. L'Union européenne, c'est tout ce que Trump déteste. Cette espèce d'alliance entre des pays basés sur le droit, sur la réciprocité et sur la démocratie. Non, Trump, c'est pas son truc. Trump, il a horreur des Européens unis, il veut les diviser, il veut négocier en one-to-one avec chacun des pays européens, parce que isolé, on est plus faible, donc on est obligé de dire oui à tout ce qu'ils nous demandent. Donc voilà. Donc je ne suis pas en train de vous dire que tout se passe bien dans le meilleur des mondes dans la relation transatlantique. Mais je dis juste qu'un conflit armé, c'est encore très difficilement envisageable. Et pour vous rassurer, si jamais ça devait arriver, un conflit armé entre les États-Unis et l'Europe, l'Europe se fait plier en une demi-journée. En termes de puissance de feu, de capacité de projection, on ne fait pas le poids. Alors après, forcément, il y a la bombe nucléaire, évidemment. On pourra toujours balancer un missile nucléaire. Mais si vous mettez la bombe de côté, sur un combat conventionnel, et Dieu sait que j'aime le Rafale. Dieu sait que j'aime le Rafale. Super avion. J'adore. Ça, on va pas tenir longtemps. Le Vietnam aussi, ça a pas tenu une demi-journée. Ah non, mais on fera une résistance héroïque. On fera une résistance héroïque. Mais... Ouais, non, je sais pas. Même si les Suisses nous soutiennent. Même si les Suisses nous soutiennent. Jamais les USA n'ont la capacité de nous occuper. Ah non, une occupation, non, je pense pas. Non, non. Mais annihiler nos capacités militaires, oui. Si la guerre en Iran s'enlise, je me demande si Trump va appuyer sur le bouton nucléaire. C'est tout le problème de l'arme nucléaire. Qu'est-ce qu'on fait d'une arme nucléaire qui est entre les mains d'un dingue? Enfin, vraiment, d'une personne qui n'utilise pas la rationalité, qui ne cherche même pas les voies du dialogue. C'est d'ailleurs le problème du programme nucléaire nord-coréen. Le fait que la Corée du Nord possède la bombe nucléaire, c'est un problème. C'est un problème parce que c'est complètement... c'est d'un danger fou pour la Corée du Sud. Une espèce de dictature sanguinaire avec un gourou à sa tête qui a l'arme nucléaire, c'est... Ils jouent pas encore les gendarmes du monde. Non, non, c'est vrai, je te l'accorde. Non, non, je te l'accorde. C'est moins dangereux que Donald Trump, quoi. Mais d'ailleurs, bon, Donald Trump n'a pas besoin de la bombe nucléaire pour faire des folies. Hein. Il a des bombardiers B2. Il a une logistique militaire phénoménale qui lui permet de faire ce qu'il est en train de faire en Iran. J'ai du mal à imaginer que qui que ce soit ose s'en servir. Je suis comme toi, c'est-à-dire qu'en fait, l'usage de l'arme nucléaire, c'est le tabou suprême depuis 1945. C'est une arme inutilisable. Le but de la dissuasion, en tout cas, je parle pour ce qui est de la France et de la doctrine française, c'est une arme strictement défensive. Strictement défensive. Qui ne servira jamais à attaquer qui que ce soit et dont le but est de ne jamais être utilisée. Il faut qu'elle existe pour qu'elle ne soit pas utilisée. C'est ça la philosophie qu'il y a derrière. Bon, mais une fois que j'ai dit ça, c'est pas parce que nous, les Français, on respecte une doctrine strictement défensive de dissuasion qu'il n'y a pas d'autres personnes à travers le monde qui se mettraient à en avoir un usage différent, quoi. La situation fait qu'un impensé devient pensable. Oui, tu as raison. Oui, oui, tu as raison. Mais c'est comme, enfin, rappelez-vous l'enlèvement de Nicolas Maduro. L'enlèvement d'un chef d'État étranger, c'était un truc qu'on n'avait pas vu depuis, je sais pas, le 19e siècle, un truc comme ça, c'est fou. Organiser une opération militaire éclair pour aller enlever un chef d'État, c'était un impensable. Ça paraissait fou. Oui, bah, il l'a fait. Du coup, c'est quoi l'étape d'après ? En plus, ce qui est inquiétant, enfin pardon, j'ai pas envie de vous doumer, hein, j'ai pas envie de vous doumer, mais la situation est inquiétante parce que Donald Trump a quand même fait campagne en politique pour être élu sur le thème de l'isolationnisme américain. C'est-à-dire Donald Trump, quand il faisait campagne au début, avant son premier mandat, il critiquait Obama, il critiquait les néoconservateurs américains, en disant vous avez perdu l'Amérique dans des combats futiles à l'autre bout du monde qui n'ont servi à rien, notamment l'Irak, l'Afghanistan aussi. C'est moi quand je serai président, ce sera America First. Et c'est ça que ça voulait dire America First. Tu sais, je m'occuperai de l'Amérique et le reste du monde il se démerde. Je suis pas là pour être le gendarme, je suis pas là pour mettre fin à des conflits, je suis pas là pour intervenir. Les impôts des Américains doivent servir à l'Amérique. Donc c'est fini les aventures à l'autre bout du monde. Bon, et ben Donald Trump à l'exercice, c'est tout l'inverse. Il s'est même targué il y a 6 mois d'avoir mis fin à des conflits pour demander à avoir le Nobel de la paix, en disant j'ai créé la paix, j'ai créé la paix, etc. Tu parles. Il a enlevé Maduro. Là, il bombarde pour la deuxième fois en presque un an, en 6 mois. L'Iran. Donc en fait, il fait pire que les néoconservateurs américains, quoi. La seule différence, c'est qu'il met pas des troupes au sol. Pas encore. C'est des bombes de paix et de liberté. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Il apporte la paix. Bon. Voilà où nous en sommes, les amis. Demain, je fais un stream à 15h. Vous avez la programmation sur mon compte Blue Sky. Je fais un stream à 15h demain. Et d'ici là, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent avec cette allocution d'Emmanuel Macron, mais j'étais quand même content de la vivre avec vous. Merci d'avoir été là. Merci les subs. Merci les abonnés. C'est grâce à vous que j'arrive à bouffer. Et ça, c'est cool. Merci pour votre soutien. Et on se retrouve du coup demain 15h pour continuer nos discussions passionnantes. Passez une bonne soirée, les petits amis. Merci d'avoir été là. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Salut tout le monde. Ciao, ciao. We'll be right back.